Radyo Scoop'u.
Radio Scoop'un François Nourricier, Jacques Chancel. François Nourricier, écrire vous amuse et vous écrivez bien. Parler de vous devrait vous agacer et vous vous raconter dans toute votre œuvre. Alors, est-ce là le jeu de l'ambiguïté ?
En tout cas, je ne sais pas si c'est de l'ambiguïté. Pour moi, c'est très clair. Très tôt, j'ai su, non pas que j'écrirais, mais que je voulais écrire. J'ai finalement écrit très vite, publié très vite. Et dès mon premier livre, je me suis aperçu que ce dans quoi j'étais à l'aise, c'était, disons, des textes très près de moi, beaucoup plus près de moi que de l'invention, que de l'imagination. J'ai tenté parfois d'échapper à ça, de repartir comme ça vers l'imaginaire. Je n'y sentais pas tout à fait à l'aise.
Parce que vous n'avez pas d'imagination ?
Je crains de n'avoir pas une imagination de romancier. Ou alors, si je l'ai, elle est vraiment bien cachée et je ne m'y suis pas abandonné facilement. Il est possible que demain, je fasse la découverte. Je dois dire que j'ai encore ma petite baguette de sourcil à la main. Je me balade encore en cherchant. Elle ne remue pas beaucoup.
Je disais à l'instant que vous tricotiez bien vos mots. C'est quand même un beau cadeau que vous a fait le ciel. C'est-à-dire vous donner cette richesse, l'écriture.
Vous savez, c'est une passion. Moi, je considère ça, bien sûr, comme un cadeau, mais aussi, surtout comme un artisanat. J'ai une passion pour les meubles et pour les ébénistes et pour la menuiserie. Eh bien, c'est un petit peu du même ordre.
Le travail de la main ou du cerveau ?
J'ai presque envie de dire que c'est un travail de la main. Il y a certains jours, on commence à écrire, on n'est pas en forme, les mots sont laids à voir. Vous savez, l'écriture se défait, se recroqueville, c'est pas joli. Eh bien, c'est bien rare que ces jours-là, on écrive quelques bons paragraphes ou quelques bonnes pages. Alors que certains matins, tout d'un coup, on regarde et le dessin vient bien. Ben, généralement, ces jours-là, les idées suivent, les idées viennent aussi.
Et c'est vrai que c'est un travail manuel, parce que regardez à quel point les écrivains sont minutieux. La recherche du papier, la recherche de la plume, ou du crayon, ou de l'encre, enfin, des choses comme ça.
Oui, je suis tenté de dire que je ne suis pas minutieux.
Vous, c'est la machine à écrire.
Ni maniaque, mais au fond, dès que je réfléchis, je m'aperçois que j'achète dans une certaine papeterie de Vevey en Suisse un extraordinaire papier rose ou bleu qui ne sert en fait qu'à renéoter typé et sur lequel j'écris et je constate maintenant, je suis passé à cause d'ennuis avec mes bras, je suis passé à la machine à écrire, mais j'en ai quatre. Alors ça doit quand même vouloir dire aussi quelque chose.
Lorsque on a la chance de pouvoir écrire, on prend également la liberté de pouvoir écrire. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à ce point où vous êtes libre, vous ne dépendez que de vous. Mais rares sont les écrivains qui peuvent en arriver à ce stade, qui sont obligés de faire un autre métier. Bon, vous êtes également journaliste, d'accord.
Oui, mais je suis journaliste à ma façon, c'est-à-dire que je suis une espèce de pigiste multiple. Je donne des papiers ici et là, je refuse ceux qui ne me plaisent pas, je quitte les journaux quand je ne m'y sens pas à l'aise.
Et vous aurez fait tous les journaux, ou à peu près.
J'ai l'impression que j'ai fait à peu près, que j'ai écrit dans vraiment beaucoup.
Tous les hebdomadaires déjà.
Journaux, tous les hebdos, moins de quotidiens évidemment, moins de quotidiens. Il me manque l'Aurore, il me manque Libération, il m'en manque quelques-uns quand même.
Mais si vous le demandez, vous diriez oui.
Ça dépend de ce qu'on me demandera. Si demain l'humanité me demande sur un sujet, par exemple, dit on s'adresse à 20 écrivains français, on leur demande d'écrire sur tel thème et que le thème m'intéresse et que les 20 écrivains français, c'est vraiment 20 écrivains français, c'est un échantillonnage sérieux et honnête, je dirais oui. On est engagé par ce qu'on écrit, on n'est pas engagé par le papier dans lequel on l'écrit, étant entendu qu'il s'agit là d'éventuelles différences idéologiques, politiques, qu'il ne s'agit pas de dégoût ou de mépris. Certaines feuilles que je ne nommerai pas me demanderaient quelque chose et me couvriraient d'or. Je n'y écrirai pas une virgule, ça va sans dire.
C'est le sens de la liberté que vous avez. Donc vous ne pouvez appartenir à aucun parti politique. On a pu s'étonner que vous lanciez une lettre ouverte à Jacques Chirac, ce qui tout de suite vous mettait sur ses rangs, dans sa chapelle. Vous, l'homme libre.
Ce livre est un livre de questions, est un livre de questions chatouilleuses et irritantes, parfois, j'ai l'impression. Enfin, lui a bien senti la démangeaison, en tout cas, il est le premier intéressé. Mais quelque part dans le livre, je dis, vous voyez bien qu'il n'est pas question qu'on m'utilise de quelque façon dans votre rassemblement, parce que vraiment, qu'est-ce que j'y ferais? J'y resterai 3 jours, bien entendu. Jamais je n'ai appartenu à aucune formation politique, et je n'y appartiendrai jamais, il n'en est pas question.
Nous reviendrons, François Nourricier, à la politique, parce que je sais bien qu'elle vous titille, mais j'ai là devant moi une phrase de Jean-Jacques Gauthier qui écrivait sur vous à l'instant où il vous passait la plume au Figaro. Alors, il parlait de vos dieux. Vous avez, paraît-il, vos demi-dieux, c'est Proust et c'est Giraudoux. Vous avez vos maîtres, Bernanos et Malraux. Vous avez vos modèles, Chardonne et Paul Morand. Vous avez vos amis, Roger Nimier et Antoine Blondin. Je veux dire qu'il y a un peu d'élitisme dans ce choix.
Je dois dire que c'était je me rappelle l'article qu'avait écrit Jean-Jacques Gauthier, qui était un article chaleureux et merveilleusement amical, mais nous ne nous connaissons, et nous ne nous connaissions surtout à ce moment-là pas assez pour qu'il pût ne pas se tromper dans une liste comme ça. Celle-ci est complètement fantaisiste.
Complètement fantaisiste.
Je n'ai jamais été l'ami de Blondin. Je n'ai pratiquement pas été l'ami de Nimier. Malraux n'est nullement un maître. Giraudoux est très loin. Bernanos s'est beaucoup éloigné. Proust, c'est un très très grand. Et si vous voulez, je considère que les deux plus grands écrivains du siècle, du siècle, sont Céline et Claudel, inatteignables, qui sont comme ça, comme sur une montagne entourée de nuées très loin, mais qui sont toujours au-dessus du paysage.
Cela ne fait pas de doute.
Et les deux hommes qui m'ont appris à aimer écrire sont Monterland et Aragon. Et ce sont deux noms qui sont absents et ce sont les plus proches de moi.
Et si je devais dire ses amis, je devrais dire son ami, et votre ami, ce serait Aragon.
J'ai vu Aragon, une ou deux fois par semaine pendant beaucoup d'années. Je ne le vois pratiquement plus jamais maintenant, encore qu'il y a 2 jours, nous avons passé une heure à bavarder. Du point de vue de la littérature, nous n'avons jamais parlé d'autre chose. Nous avons parlé d'amitié, de paysage, de voyage, de littérature, surtout de littérature. De ce point de vue-là, il est peut-être, encore une fois avec Monterland, l'homme qui m'a le plus influencé. Il y a eu même un moment où j'ai dû me garder d'un danger, là, parce que il y avait de l'Aragon qui me venait un peu bien sous la plume. J'ai une grande capacité, par exemple, à imiter les gens. Je peux très bien contrefaire la voix des gens que j'aime, et je pourrais assez facilement faire des pastiches. Je n'en ai jamais fait parce que je sais que je les ferai, si j'ose dire, trop bien.
Vous pourriez donc vous lancer sur les planches d'un musical?
Eh bien, j'ai une telle horreur de tout ce qui est manifestation publique qu'il ne me semble pas que le danger me menace ou vous menace.
Alors, François Nourricier, il faut donc se méfier des étiquettes qu'on le met sur le dos des gens et des amitiés également qu'on leur prête.
Oui, vous voyez par exemple cette étiquette comme ça, Nimier Blondin, les Hussards,
Michel
la
Déon.
Parisienne, etc.
Bon, ben, la Parisienne, quand même, c'est Jacques Laurent et vous avez travaillé à la Parisienne.
La Parisienne, il y a eu comme ça environ 6 ans d'existence de la revue. Une première époque, Jacques Laurent, François Michel, François Santin. Je n'y ai jamais écrit une ligne. On ne me l'a jamais demandé, d'ailleurs. Puis, le hasard a fait que des amis ont repris la revue, et pendant 3 autres années, j'en étais le rédacteur en chef. Et pendant cette époque-là, je voyais très, 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 très rarement Laurent. Je crois que je suis resté un jour 8 ou 9 mois sans le rencontrer, ce qui n'était vraiment pas une collaboration très... Elle était amicale, mais elle était lointaine. Pendant ces 3 années-là, pas une fois un Blondin, pas une fois un Nimier, pas une fois un Déon, pas une fois un Frégnaud. C'est-à-dire que toute cette salade est une salade qui n'existe que dans un tout petit coin d'une petite page des manuels de littérature contemporaine. En revanche, par exemple, Michel Déon, que je ne connaissais à peine à l'époque, nous nous sommes retrouvés un été en Grèce, nos enfants sont devenus amis, nous sommes allés nous baigner ensemble, nous sommes devenus des amis. 15 ans après la Parisienne et dans les eaux grecques.
D'ailleurs, François Nourrici, lorsque vous dites tout cela, ce n'est pas parce que vous refusez et Jacques Laurent et Roger Nimier, et Antoine Blondin et Michel Déon.
Non, pas du tout. Ce sont tous des écrivains pour lesquels j'ai la plus grande considération et complicité.
Mais c'est parce que lorsqu'on parle des hussards, immédiatement, il y a cette couleur qui vient, ce bleu qui pourrait être un bleu roi, ou alors encore cette étiquette que l'on colle, mais alors que l'on pousse, que l'on plaque, c'est la droite.
Oui. À ce moment-là, Nimier ne parlait jamais de moi quelque part sans faire précéder ou suivre mon nom de l'étiquette Madésiste.
Madésiste.
C'était ça, à l'époque, ma couleur.
Alors, François Nourrici, il y a ses livres, 1951... C'est l'eau grise, ensuite, je donne quelques dates, hein. 1966, une histoire française, 1968, le maître de maison, 1970, la crève, 1973, allemande, aujourd'hui, lettre ouverte à Jacques Chirac. J'ai oublié beaucoup de livres, mais sciemment, et nous y reviendrons.
Moi aussi, j'en ai oublié.
Peut-être moins que moi, quand même, parce qu'il y a pour vous, François Nourrici, des livres qui comptent.
Oui, dans ceux que vous avez oubliés, il y en a au fond un seul. C'est un petit texte dans une collection éphémère qui s'appelait Libelle.
Un petit bourgeois.
Non, ça s'appelait Portrait d'un indifférent.
Ah, Portrait d'un indifférent.
Et puis il y a un petit bourgeois, qui est un texte de 63, si j'ai bonne mémoire, qui est mon premier vrai livre. C'est à partir d'un petit bourgeois que moi-même, je n'ai plus eu honte si on me demandait profession, vous savez, sur les fiches d'hôtel, il y en avait encore à l'époque. À partir d'un petit bourgeois, c'est très cocasse d'ailleurs, j'ai écrit « écrivain » sur l'affiche. Avant, j'avais mis n'importe quoi, je m'étais employé d'édition, je m'étais n'importe quoi.
Ce jour-là, vous vous étiez reconnu dans le petit bourgeois.
J'ai la certitude que ce jour-là, j'ai livré la première vraie bataille, qui était d'abord contre moi, puisque c'était un texte autobiographique, et j'ai eu le sentiment que j'étais entré dans ma... Il y a une belle phrase de Monterland dans Les jeunes filles. J'étais entré dans ma probité.
Je crois savoir, François Nourricier, que vous êtes en ce moment sur un gros roman. On dit toujours un gros roman, d'ailleurs, parce que c'est cette difficulté qu'il y a à l'écrire et que, à travers les pages, à travers tout ce qui venait de vous, la politique venait en même temps et vous avez voulu vous déshabiller de cette politique. Et c'est un peu la raison pour laquelle vous avez écrit « Lettre ouverte à Jacques Chirac », un livre pour lequel vous auriez pu trouver un autre titre.
Oui, bien sûr. Il y avait deux choses. Il y avait en effet d'une part que je suis en train de travailler depuis longtemps avec toutes ces difficultés que j'évoque sur un roman contemporain et avec beaucoup de personnages.
Des personnages d'aujourd'hui, vraiment, mais qui nous touchent de près.
Des personnages d'aujourd'hui, enfin des gens, disons, de 70 ans qui sont très souvent mes personnages de référence, ceux qui me fascinent.
Pourquoi 70 ans? Parce qu'ils ont déjà eu leur temps de passage?
Parce que j'ai été complètement... Toute ma sensibilité et ma sensibilité politique aussi ont été formées, au fond, par l'immédiate avant-guerre, l'occupation, la libération, tout ce déchirement, cette espèce de cassure de la France en deux que j'ai vécu comme un adolescent très, très intensément. Tout ça, j'étais à la fois dans mon petit coin, tout ça, et déchiré par tout cela. Donc c'est resté, c'est ce qui a formé, au fond, par exemple, à deux reprises dans mes livres, il y a un personnage qui est un écrivain ex-collaborateur qui ressurgit après avoir été un peu écrasé, écarté à la Libération. Là, dans le roman actuel, il y a un autre personnage qui a été au contraire une espèce de paladin du gaullisme, mais un paladin très, très prudent qui écrivait des poèmes en Suisse pendant ce temps-là. Tout ça donc m'intéresse beaucoup plus que ça n'intéresse mes enfants, par exemple, évidemment. Bon, donc la politique s'insinuait un peu trop dans le livre et j'ai eu envie de l'en expulser sous sa forme quotidienne et politicienne. Ça, d'une part. D'autre part, il y avait depuis, disons, 5-6 ans, deux ou trois choses que j'avais envie de dire. J'avais pensé à écrire sous cette même forme, dans cette même collection de la lettre ouverte, une lettre ouverte à Georges Pompidou, où je lui aurais expliqué combien il est difficile pour un écrivain français de se sentir majoritaire, de se sentir du côté du plus grand nombre. C'est mal porté, c'est pas à la mode. Tous les amis sont révolutionnaires, tous les amis qui vivent comme moi, tout à fait, veulent le chambardement, le remplacement de tout. Tout ça est un de mes sujets à la fois de colère et de gaieté les plus permanents. Et puis, il y a eu les premiers signes de la maladie de Georges Pompidou. Le ton d'un livre de ce genre aurait été tout à fait indécent. Alors j'ai rentré mes réflexions politiques. Et puis j'ai même pensé en 76 à faire un livre qui aurait été adressé au président de la République.
Oui, ça je ne comprends pas. J'allais
mais
vous
alors
poser
là,
cette question.
Mais alors là, le ton un petit peu insolent, un petit peu capricant comme ça de cette collection n'aurait pas été adapté à la situation. D'abord parce que l'année 76 était une mauvaise année pour le président, donc c'était déplaisant. Et puis on ne parle pas au président de la République, même si on l'a rencontré de temps en temps dans sa vie, sur le ton qui convenait. Alors finalement, je me suis dit, mais il y en a un là qui est rudement intéressant à regarder. Et c'est à lui que je vais parler, parce que lui, il appelle justement le ton dont j'avais besoin pour faire ce livre et pour faire passer mes petites réflexions politiques. Voilà pourquoi j'ai choisi d'écrire à Jacques Chirac. Et puis, au-delà de ça, parce que je dois dire, j'aurais une certaine tendance à lui faire confiance.
Oui, parce que c'est un choix que vous avez fait. Lorsque vous faites une lettre ouverte à Jacques Chirac, on peut penser, surtout au moment où cette lettre est venue, on peut penser que c'était une lettre contre Valéry Giscard d'Estaing.
Non, alors ça, en aucune façon. Je veux dire,
vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser une chose comme
oui,
ça.
Oui, mais je le dis avec une telle précision dans le livre qu'il n'en est pas question. Et surtout, on ne me fera jamais croire que quand on est du côté de la majorité, on puisse jouer un homme contre un autre au début de l'année 77. Ou alors, si on le fait, c'est qu'on a vraiment du goût pour le suicide.
Il y a, François Nourricier, dans toute votre œuvre, une sensibilité que je dirais aiguisée, mais il y a, et j'ai cru le reconnaître, j'ai cru le deviner, une déchirure, une blessure, mais qui pourrait peut-être venir de l'enfance. Bon, je le sais, vous avez perdu votre père dans des conditions un peu particulières, parce que je crois que vous l'avez perdu au cinéma près de vous alors que vous étiez allé voir un film. C'est quand même terrible, peu de gens ont perdu leur père de cette manière-là. C'est-à-dire retrouver un mort à la fin d'un film.
Ça n'a même pas été comme ça. Je l'ai regardé mourir, couché par terre dans le hall du cinéma, au fond d'une banlieue où nous habitions. C'est quelque chose qui restait absolument, comme on dit, gravé en moi. Déjà que notre famille n'était pas une famille d'une grande gaieté, cette mort du père, et je me suis retrouvé entre une sœur, une mère, des cousines, des tantes, comme ça, élevé encore une fois au fond de la banlieue par des femmes, dans ces années de juste avant la guerre. Tout cela, maintenant, je m'en rends compte, maintenant que j'ai élevé, moi, ou presque fini d'élever mes enfants, et que j'ai essayé de mettre un petit peu de gaieté, de joie autour d'eux, je me rends compte maintenant que j'ai eu une enfance étouffée, une enfance dans la grisaille à un point extrême.
Mal aimé ?
Non, bien aimé, peut-être trop aimé, mais sans doute pas tout à fait de la façon dont il eût fallu l'être. Peut-être pas tout à fait par les personnes que j'aurais voulu. Quand je repense maintenant à mon enfance et à mon adolescence, je m'aperçois que j'ai vraiment été le canard couvé par des poules. Les poules n'ont pas été du tout méchantes avec le canard. On m'a laissé me former comme je voulais tout seul. On m'a laissé chercher mes amis, chercher mes lectures, chercher mes goûts, chercher mes études, chercher mon avenir. Mais personne ne m'a jamais donné le commencement d'un conseil. C'est la famille de mon meilleur ami qui me... mesurant dans quel abandon j'étais, m'a un petit peu pris sous son aile, comme ça m'a donné une famille de remplacement. Aujourd'hui, quand je pense à mon enfance et à mon adolescence, c'est une famille de gens avec qui je n'avais aucun rapport, qui me paraît avoir été ma vraie famille.
Et avec tout cela, vous avez souhaité tout de même avoir des enfants après ?
Oui, même très vite. À 22 ans, je me suis marié. À 24 ans, j'avais un premier enfant. J'avais été un peu aussi secoué. Bon, il y avait les veuvages, les remariages, les divorces, tout ça. Le bateau tanguait beaucoup. J'ai voulu montrer que, quel que fût l'état de la mer, on pouvait naviguer très bien. Bien entendu, je me suis trompé. Je me suis retrouvé dans les divorces, les remariages, les redivorces, exactement comme tout ce dont j'avais souffert. Je l'ai imposé à mon tour à mes enfants. Disons que j'ai essayé de le faire avec plus de sensibilité, peut-être un peu plus d'intelligence que ce dont j'avais souffert.
C'était inévitable.
Je n'en sais rien. Vous savez, les vies, c'est toujours mal fichu. Tout d'un coup, on s'arrête, c'est fini. On se dit, qu'est-ce que tout ça était mal fichu.
Enfin, dans toute vie d'homme, il y a des peurs. Il y a la peur des 20 ans, la peur des 40 ans, la peur des 60 ans, peut-être. Après, oui. On n'a plus peur, 20 j'imagine.
Ans, 20 ans, j'en conserve un souvenir tout à fait ébloui, au contraire. Je dois dire que, vous savez, être dans une espèce de caverne comme ça, ou de pénombre, et sentir que l'on va déboucher vers de la lumière, vers l'extérieur, car ça a été tout à fait ça. J'étais dans un monde où on ignorait tout ce que j'aime, où on s'occupait pas de musique, pas de livres, pas de peinture, où tout ça, on s'en fichait. Et on regardait ce petit garçon qui faisait de la peinture à l'huile, qui courait dans les musées voir comment il fallait faire. Je volais des livres dans les librairies. Je dois dire que pendant des années, j'ai volé des livres. Je n'ai volé que ça, mais j'ai vraiment volé des livres.
Il y a prescription maintenant.
Oh oui, je l'ai un jour avoué à un libraire chez qui j'en avais pris beaucoup. Il a pris ça très mal. Il m'a presque tourné le dos. Ils sont drôles, les gens. Et bon, et puis, je suis sorti de tout ça. Et tout d'un coup, 15 ans à 20 ans, je sortais de tout ça. Je lisais un livre par jour, j'écoutais toute la musique possible. J'ai été extraordinairement heureux. C'était la fin de l'occupation, c'était une période sombre. J'ai été pourtant heureux. Donc ça, je ne laisse jamais dire du mal de l'adolescence et de la jeunesse, parce que ça me paraît, on est déchiré, on souffre énormément, mais qu'est-ce que c'est bien.
Et puis on peut s'enrichir tout seul.
On s'enrichit tout seul, ben oui, ça tout seul, il fallait bien. Mais on peut s'enrichir et on a vraiment le sentiment chaque soir qu'on est un petit peu plus large, un petit peu plus riche que la veille. Et ça, c'est absolument formidable.
Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi toute votre vie, enfin, qui n'est pas encore très longue, vous êtes livré...
50 ans dans quelques jours.
Donc un demi-siècle.
Ben, c'est pas si mal.
Mais vous êtes livré à une quête, et cette quête, c'est celle de l'évasion. Et l'évasion, dans ces cas-là, c'est toujours le bonheur.
C'est le bonheur. Il y a eu comme ça quelques illusions qui ont traversé ma vie avec une constance extraordinaire, c'est-à-dire qu'elles l'ont traversé plusieurs fois. L'illusion du bonheur, l'illusion de la famille, l'illusion de la maison. Et puis un jour, on se fixe. Finalement, côté bonheur, je me suis arrêté et j'ai une vie très équilibrée. Mes enfants, j'ai fini par entretenir avec tout ce petit monde-là.
Vous avez combien d'enfants ?
Trois enfants, deux grands-fils et une fille de 15 ans. J'ai fini par... et je serai grand-père, j'espère, dans très peu de mois. Tout ça fonctionne assez bien. En tout cas, de mon point de vue, mes rapports avec eux sont bons, sont intéressants, ça marche bien. Les maisons, ça ne marche toujours pas. Je les achète, je les revends, je les achète, je les revends, je me sens toujours pas bien. Et puis, il y a les livres. Il y a les livres. Alors ça, il y a cette particularité avec les livres qu'on se dit toujours que la vie commence demain. Et ça, c'est un immense privilège. Pendant des années, comme ça, on veut être reconnu, on veut être accepté, on veut avoir quand même un peu de succès. On veut avoir quelques témoignages sûrs, tangibles, que l'aventure se déroule bien. Et puis au fur et à mesure qu'on a tous ces témoignages, on se dit, bon, ben après, qu'est-ce que je vais faire ? Quand je n'ai plus avoir grand-chose à ambitionner, j'utilise exprès le mot affreux, qu'est-ce que je vais faire ? Et alors la réponse arrive avec un naturel parfait, je vais faire des livres. Et ça, c'est tout à fait formidable parce que j'ai 18 ans de ce point de vue-là. Je pense au livre auquel je travaille, à celui que je ferai après, comme si j'avais 18 ans.
C'est la passion de l'écriture.
Je pense que c'est une vraie passion.
Ah oui.
Ça, c'est une vraie passion.
Mais il y a cette affaire des maisons. Je sais que vous avez quitté Paris, je sais que vous ne pouvez pas vous tenir dans une maison, mais cela tient à quelque chose.
Il faut quitter Paris comme tout le monde, c'est-à-dire que j'essaye de m'arracher de Paris le plus possible et que ce n'est pas facile. Il y a des années où je réussis à passer beaucoup de mois au loin, et puis il y a des années, comme depuis 2-3 ans, où je suis beaucoup trop à Paris.
Tout se passe encore à Paris pour un écrivain ?
La consécration, à coup sûr.
Mais vous n'avez plus besoin de la consécration. Alors non. Que venez-vous faire à Paris ? Vous pourriez de temps en temps... C'est donc quand même une drogue, Paris, pour vous. C'est là que vous avez vos amis, vous avez été éditeur, c'est là que vous pouvez aller dans les bureaux, revoir ce qui était votre vie.
C'est-à-dire, il y a cette autre forme de la passion d'écrire, qui est l'écriture des autres et les livres des autres, qui est une passion...
Et la rencontre des autres.
Et la rencontre. Oui, la rencontre. Vous savez, les écrivains, ça parle de tout sauf de livres, quand ça se rencontre. Bon, c'est mon milieu, ce sont mes amis, je connais des écrivains, je connais des peintres, c'est ma vraie famille, et je suis très content de cette famille-là, ça m'embêterait de voir des golfeurs et des industriels. Mais on parle de tout et de rien, heureusement. Mais il y a en effet le goût de lire, il y a le goût de parfois de défendre les textes des autres, de faire que tout d'un coup ça marche, d'être membre de tel ou tel aréopage qui permet de couronner quelqu'un, de l'aider. Et c'est vrai que j'aime tout ça. Mais enfin, je n'aime pas tout ça au point de ne pas pouvoir y échapper. Ce serait plutôt, disons, les études de mon dernier enfant qui me retiennent à Paris. Dès que ce problème-là sera réglé, si les petits cochons ne m'ont pas mangé, je serai très loin.
François Nourricier, votre femme est peintre. Vous vous reconnaissez dans ce qu'elle fait ?
J'ai plutôt envie de dire que je la reconnais. Ça me paraît plus important. Mais c'est important de beaucoup de points de vue.
Il y a quand même des épousailles. Hein, lorsque l'homme est écrivain, lorsque la femme est peintre, et que c'est un même couple, l'un et l'autre peuvent se reconnaître.
C'est très important parce que nous avons le même rythme de vie. Nous passons, comme vous me le dites, tout d'un coup ça m'y fait penser, mais nous pouvons passer en effet 12 heures dans la même maison, elle dans son atelier, moi dans mon bureau. Et nous allons nous faire des petites visites, et notre chienne va de l'un à l'autre, gémit parce qu'on ne la fait pas assez se promener. Et c'est une vie, en effet, qui a trouvé un grand équilibre, ça. Ce serait terrible d'être écrivain et d'avoir une femme qui n'aime que dîner en ville, ou d'être peintre et d'avoir un mari qui dit « tu sais, j'ai encore des ennuis à l'usine avec le comité d'entreprise ». J'ai l'impression que ça ne ferait pas des conversations très, très souriantes, alors que nous avons la chance d'avoir des amis que nous partageons, que nous aimons beaucoup. Les amitiés ont pris une place immense dans notre vie, je crois. Et au fond, de pouvoir nous rencontrer en bougonnant dans l'escalier, en disant « ça va, oh non, ça ne va pas, et toi, moi non plus », car bien, on ne se dit jamais autre chose.
Enfin, il fut un moment où vous aviez le sens du désordre, et je dirais même d'une certaine manière le goût du malheur. Vous avez perdu tout cela.
J'ai perdu tout cela. Et même, il faut que l'on m'en parle comme vous faites, pour que j'y repense. Le personnage que j'étais dans les années, disons, 55, il y a 20 ans, 25 ans, ce personnage-là me paraît très loin maintenant. Je ne relis jamais mes textes et j'aimerais pas beaucoup relire les textes de cette époque-là parce que je pense que j'aurais une... Je me hérisserais au contact de celui que j'étais il y a un petit quart de siècle. C'est comme ça. Je crois qu'il vaut... C'est Gide qui disait il faut toujours suivre sa pente, mais c'est mieux si c'est en montant. J'espère que ma pente a monté un peu alors qu'elle avait de fâcheuses tendances à descendre.
Et je crois que vous avez eu une force comme chroniqueur, comme journaliste et comme écrivain. Vous n'avez pas été agenouillé. Ce qui est parfois le fait de personnages qui entrent dans la vie politique. Ils sont agenouillés devant leurs amis, devant leurs
vous
ambitions.
Savez, j'ai une idée sur l'agenouillement. C'est que ne s'agenouillent que les gens qui ont les genoux et les jambes très souples. Au fond, il est très rare.
Et l'esprit aussi.
Mais il est très rare que dans nos professions, celles qu'on définissait tout à l'heure, comme ça, entre les moyens d'expression, il est très rare qu'on dise à quelqu'un, mon petit ami, agenouillez-vous. Généralement, les gens qu'on voit à genoux, ils l'ont fait spontanément. Il suffit de ne pas le faire, non ?
Enfin, vous avez été élevé dans la religion catholique par habitude et vous dites quelque part même par décence. Peut-on être élevé de cette manière-là ?
J'ai été élevé par une et dans une famille où la foi n'avait pas plus d'importance que, je le disais tout à l'heure, les livres, la musique, la peinture.
C'est encore l'agenouillement. Hein.
On était catholique comme ça. J'ai donc été mis dans le catholicisme comme ça. Ensuite, il se trouve que toutes mes amitiés ont été, par une espèce de hasard, puis par de vagues mélanges familiaux, ont été du côté du protestantisme. Et au fond, je pense que le protestantisme a peut-être eu plus d'influence sur moi du côté de mes 20 ans que le catholicisme. Cela dit, je me sens de la famille. Je ne renie pas. Si on me donne une fiche à remplir, je répondrai catholique romain à la question religion. Cela dit, ma femme est juive, le judaïsme autour duquel j'ai toujours rôdé, ça depuis très très longtemps, c'est une, disons, un ensemble de passions, de cultures, de foi auxquelles énormément de moi adhèrent. Donc je n'aime pas trop secoué tout ça. Il y a une espèce d'équilibre qui s'est établi. Je le respecte, je n'y touche pas trop.
Vous êtes issu de Lorraine. Enfin, votre famille vient de Lorraine. Que ressentez-vous par rapport à ce pays? Vous êtes de ce pays-là?
Je vais vous dire, ma Lorraine, c'est la Meuse. C'est exactement les environs, c'est l'Argonne, quelque part entre Verdun et Varennes en Argonne, c'est-à-dire les champs de bataille de 1916. En 70, le village a eu pas mal à souffrir. En 1916, il a été totalement rasé. Il a été reconstruit, alors que dans le choix, il y a des villages qu'on reconstruisait, d'autres pas. On a fait des regroupements, celui-là a été reconstruit. En 1940, il a reçu des bombes d'avion, en particulier la maison, notre maison, a été détruite. Ça faisait la troisième fois en 70 ans. Mon père étant mort, nous n'étions plus propriétaires que d'un dossier de dommages de guerre, ça s'appelait comme ça. Alors je dois dire que je l'ai vendu à un voisin, le dossier de dommages de guerre, et que j'ai donc trahi. Mais cela dit, on ne peut pas renier le matériau dont on est fait. Mais ma famille paternelle était dans ce village, ils étaient des artisans potiers. Ils étaient dans ce village, en tout cas, depuis le début du XVIe siècle, faisant le même métier. C'est-à-dire, ça, vous savez, il y avait des poteries des Ilettes. Les Ilettes, c'était le village voisin, et c'était une petite, toute petite manufacture qui travaillait pour les manufactures des Ilettes. C'est-à-dire que il y a derrière moi, en tout cas, 400 ou 500 ans d'artisanat dans un petit village d'Argonne.
Et c'est bien écrit dans votre histoire.
C'est quelque chose, mais de très, très, très profond. Et alors, de temps en temps, je prends les gens comme ça qui m'intéressent, je les mets dans la voiture et je les emmène là-bas. Je leur dis, il faut quand même que tu comprennes d'où tout ça sort, en particulier avec mes enfants, j'ai fait ça. Je les amène dans le village là-bas, qui est un des villages les plus tristes que j'ai jamais vu. Je crois qu'il faudrait aller au fond de la Pologne pour trouver des villages aussi tristes. Vous savez, la Meuse, c'est pas
mais vous
un
êtes
département
de
gay, mais je suis de là. Et si j'entre dans une boutique dans un de ces villages, ou si je vais au plus proche restaurant de près de chez moi, qui est, je crois, 30 kilomètres, hein, à Clermont en Argonne, sur la route nationale, j'entre le dimanche et je regarde les gens autour de moi et je dis ça c'est la grand-mère Judith, ça c'est l'oncle Alexandre, ça c'est le cousin Paul. Et je connais leur silence, je connais leur tête qui est la mienne, je connais le son de leur voix qui est le mien. J'y peux rien, c'est ma terre, je n'en veux pas, je veux plus y aller, on peut pas vivre dans cet endroit, me semble-t-il. Mais c'est ma terre.
Une fois, François Nourricier, parlant de la France, vous avez crié « J'ai mal à mon pays ». C'est un cri que vous pouvez encore lancer aujourd'hui.
Ah oui, mais aujourd'hui, je ne dirais pas aujourd'hui plus que jamais, parce que beaucoup de choses ont été faites. Mais disons que dans les années 50-58, qui sont vraiment celles du début de ma vie d'homme, j'ai été horrifié. Horrifié par l'Indochine, horrifié par le début de la guerre d'Algérie, horrifié par le spectacle qu'offrait la politique française. Quand le général est arrivé en 58, comme j'étais un bon jeune homme de gauche comme tout le monde, je me suis dit « Ah, attention, voilà le général factieux qui arrive ». Puis au bout de 6 mois, j'ai compris que j'étais complètement imbécile. Et très vite, je me suis mis à regarder de Gaulle avec fascination et je n'ai plus changé mon point de vue ni mon jugement sur tout cela. Donc quand je pense au grand progrès qui a été fait à partir de 1958, toutes ces années pendant lesquelles il était redevenu un petit peu... On était de nouveau un petit peu fiers ou disons un petit peu calmes d'être français. Alors, quand on voit tout ça qui s'est dégradé si vite récemment, on ne peut pas ne pas être malheureux. Je dois dire qu'aujourd'hui, moi, je ne jetterai la pierre à personne. Enfin, peut-être que le combat de Chirac est le bon, peut-être pas. Les gens qui adhèrent à l'Union de la gauche et qui disent « il faut changer tout ça après ces 20 années », compte tenu de la situation, moi, je ne me sens vraiment pas le cœur de leur dire « vous avez tort ». Je leur dis « je pense que vous avez tort, mon jugement est que vous avez tort ». Mais qu'ils y aillent avec franchise et avec la même colère et la même tristesse que je ressens, ça j'en suis sûr. C'est pour ça que les mois qui viennent ou les 2-3 années qui viennent sont si importantes. On ne sait pas du tout qui a tort, qui a raison. On ne sait pas du tout comment tout ça va basculer.
Enfin, aujourd'hui, François Noricy, vous avez fait le compte de vos ambitions, le compte de vos honneurs. Et je me demande s'il existe quelqu'un dans le monde pour qui vous voudriez être un inconnu. Des gens se sont retirés. Je pense à mon ami Joseph Deltay, qui, il y a une quarantaine d'années, s'est installé près de Montpellier et ne s'intéresse pas au monde et a toujours ce bonheur de l'écriture.
J'essaye de bien comprendre votre question.
Vous voudriez être dans l'anonymat le plus total pour qui? Peut-être pour vous-même, d'ailleurs. Êtes-vous content d'être dans cette position d'écrivain reconnu, invité, souhaité, attendu?
Je pense que la réponse élégante consisterait à dire non. Elle serait malhonnête.
Oui.
Venant d'où je viens, être qui je suis est quand même une grande victoire contre le destin qui m'était réservé. Donc cette victoire, je l'ai remportée. Cela dit, on passe pas 5 ou 10 ou 20 ou 30 ans de sa vie à se gargariser d'être devenu une espèce de notable, car finalement c'est ça, je suis une espèce de notable quoi dans la profession. Bon, ça donne justement les...
Un notable, mais également un bon ouvrier. On pardonne à un bon ouvrier d'être notable. C'est-à-dire, lorsqu'on dit, c'est un bon professionnel, il sait faire quelque
voilà,
chose.
Si on me donne la médaille des vieux travailleurs, je serai content. Cela dit, je pense qu'il est, il est temps maintenant, je le répète, j'ai 50 ans dans quelques jours, il est temps maintenant de faire le silence autour de soi, autour de moi, et de me mettre sérieusement au travail. Je vous disais tout à l'heure, les livres qu'on va faire sont toujours les premiers livres qu'on va faire. C'est la belle phrase, toute femme qui met au monde enfant pour la première fois. C'est vraiment très juste pour un écrivain. J'ai le sentiment que tout ce que je demande maintenant, c'est le temps nécessaire et le silence nécessaire pour faire 4 ou 5 bons livres. Et j'espère que les bons livres, ce seront les premiers bons livres.
Enfin, vous y êtes mal pris pour faire le silence sur vous-même, François Noricy, parce qu'il y a eu d'abord ce livre, Lettre ouverte à Jacques Chirac, et c'était entré de plein pied dans la politique. Et puis, tout à fait récemment, vous avez été appelé au jury Goncourt. Vous faites maintenant partie de l'Académie Goncourt, comme André Steele. 7 voix sur 8 pour vous. On peut se demander qui n'a pas voté. C'est une interrogation sans doute qui n'a pas dû vous échapper.
C'est une question que j'ai essayé de ne pas me poser, que je n'ai en tout cas pas posée à mes amis, comme on dit.
Enfin, qu'importe. 7 voix sur 8, c'est bien. De toute manière, au Goncourt, on est appelé. Et vous remplacez Raymond Queneau. Enfin, vous avez pris le couvert Raymond Queneau, c'est quand même une chance.
Prendre la suite de Raymond Queneau, c'est une grande chance et c'est un grand honneur. Et ça, Dieu sait que j'y étais sensible.
Et ce sont deux hommes qu'ils ont appelés, François Noricier, dont on pourrait penser qu'il est pour la majorité, et André Steele, qui est communiste. Deux hommes, deux écrivains, comme quoi on peut se reconnaître, même si on appartient à des idées complètement différentes.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas André Steele. Je l'ai rencontré pour la première fois quelques jours après cette élection à l'Académie Goncourt. Je le connaissais de... Nous étions peut-être une fois ou l'autre téléphonés, nous avions une fois ou l'autre échangé des lettres, et c'était généralement à propos d'articles qu'il avait écrits dans l'Humanité sur des livres de moi, puisqu'il tient la critique, enfin la moitié de la rubrique littéraire de l'Humanité. Et je dois dire que c'était toujours des articles parfaitement objectifs et, si j'ose dire, parfaitement amicaux. C'est-à-dire que la distance entre les écrivains ne les empêche pas de parler l'un de l'autre avec une parfaite honnêteté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Par exemple, il faut saluer dans les journaux communistes, ce qui n'existe pas dans le domaine littéraire, ce qui n'existe pas toujours dans les journaux dits bourgeois, c'est une sorte d'objectivité. Ils essayent de parler de tous les livres. C'était vrai aux Lettres françaises, du temps d'Aragon et de Dex. C'est vrai à l'Humanité. Alors, ils mettent un titre qui exprime bien qu'on est leur adversaire, si on est leur adversaire. Mais l'analyse est sérieuse. Je dois dire que le lendemain de mon élection au Goncourt, je savais bien que dans le Figaro, on allait être aimable avec moi. Je suis de la maison. Mais quand j'ai vu l'article Wurmser dans l'Humanité, je me suis dit, chapeau, il faut le faire comme ça, c'est bien.
Alors, François Noricy, il y a maintenant l'interrogation. Vous avez décidé de ne pas aller du côté de l'Académie française, vous faites partie de l'Académie Goncourt. Or, on vous attendait. à l'Académie française. Et moi, je me demande si ce n'est pas là votre véritable personnalité qui est faite peut-être de beaucoup d'orgueil. On vous a choisi au Goncourt, vous auriez été obligé de vous déclarer partant pour l'Académie française. Et vous ne voulez pas demander des
voix. Non, mais c'est absolument évident.
C'est cela. L'idée, d'ailleurs, je vous comprends.
Hein. L'idée d'aller tirer des sonnettes pendant des mois, l'idée de faire taire certains de moduler certains de ses jugements par calcul, d'enchérir sur certaines de ses admirations également par calcul, tout ça est assez abominable. J'avais participé il y a à peu près une année à une émission de télévision comme ça, à un dossier de l'écran sur l'Académie, où il y avait là le secrétaire perpétuel, trois académiciens, un homme qui avait déclaré, c'était Cesbron, qu'il avait été eu une fois pour une candidature qu'on n'y reprendrait plus, puis il y avait Poirot Delpech et moi. Et la seule chose que j'avais dite dans ce débat, c'était organiser la cooptation. C'est-à-dire, un jour, aller dire à un monsieur, est-ce que vous serez content à telle date d'être des nôtres, oui ou non, oui, merci monsieur. C'est la seule façon correcte d'agir. Il faut savoir si on veut rassembler les meilleurs écrivains français ou si on veut faire un club des vieux messieurs avec la volupté de recevoir des visites et de blackbouler, comme on dit au jockey, de mettre une boule noire pour éliminer quelqu'un. Alors, ce n'est pas la même ambition.
D'ailleurs, ce serait beaucoup plus noble.
Ça aurait infiniment plus d'élégance et d'allure. C'est ça qui m'a frappé. Je connais assez bien le milieu autour de l'Académie française. J'ai peur que ces gens qui distribuent cette grande consécration sociale et mondaine, qui sont souvent l'élégance même, se trouvent obligés à agir leur candidat sans élégance. Et ça, je trouve ça un petit peu embêtant. L'Académie Goncourt, c'est Hervé Bazin qui m'a téléphoné un jour en disant « Si tu es élu à telle date, est-ce que tu es d'accord ?» J'ai dit « Oui ». J'en ai plus entendu parler pendant 3 mois et ça a été fait. Ça, c'est convenable.
Vous avez fait des études comme tout le monde, mais vous avez eu des diplômes ?
Sciences Po. Et puis j'ai fait aussi un peu de droit, puis j'ai fait aussi un peu de Sorbonne, mais tout ça de façon bien effilochée, je dois dire. D'abord parce qu'à l'époque, je ne pensais qu'à monter à cheval. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Et puis parce que ma famille était arrivée vraiment à peu près au bout de ses économies et que nous continuions de vivre comme des bourgeois alors que vraiment nous ne pouvions plus. Et que c'était le bout du rouleau. Il fallait se mettre à gagner des sous. Mes amis de l'époque n'ont jamais su que pendant que j'allais monter à cheval au manège avec eux et que j'étais à Sciences Po, il m'arrivait de passer des heures à copier des enveloppes. Ça, personne n'a jamais su. C'est peut-être la première fois que je le dis.
Vous étiez brillant en littérature et vous l'avez prouvé parce qu'alors là, vous avez eu tous les prix. Faisons les comptes un peu. Le prix Fainéant pour L'eau grise. L'eau grise, c'est votre premier roman. Le grand prix.
C'était bien le prix Fainéant parce que c'était l'accord de Jean Paulhan et d'Aragon au jury. Alors ça m'avait fait plaisir.
Ensuite, le grand prix du roman de l'Académie française pour Histoire française. La plume d'or du Figaro littéraire pour le maître de maison. Et je dois rappeler que pour le maître de maison, vous pensiez, vous espériez avoir le prix Goncourt.
Non, je n'avais pas espéré un instant. Je veux dire, les choses étant ce qu'elles sont, ça ne me paraissait pas possible.
Vous avez manqué de peu. Hein.
Et tout d'un coup, j'ai vu arriver à midi moins le quart toutes les voitures RTL, Europe, l'ORTF à l'époque, de coincées devant la maison. Alors là, je me suis dit, diable, s'ils sont là, ça devient plus chaud. Et tout d'un coup, vers 1h-20, j'ai vu les trois voitures démarrer en trombe.
Partir,
j'ai dit, tiens, c'est fini.
Effroyable.
C'est fini.
C'est ce qui est un peu arrivé à notre ami Robert Sabatier, qui a tellement attendu pour les allumettes.
Mais on se retrouve à l'Académie Goncourt, on se retrouve souvent entre gens qui l'ont raté comme ça d'un cheveu. Sabatier l'a raté d'un cheveu, Hervé Bazin l'a raté d'un cheveu, je l'ai raté d'un cheveu. C'est assez amusant.
Il y a eu également le prix Fémina pour La Crève, et là c'était un prix qui est allé droit à votre cœur sans doute, parce que c'était quand même le grand prix. Vous n'aviez pas le Goncourt, mais vous aviez le Fémina.
Oui, et je dois dire que les dames du Fémina m'auraient sans doute donné le Fémina l'année où je n'ai pas eu le Goncourt, mais il se trouvait que cette année-là, elles avaient annoncé Marguerite Yourcenar, nous le lui donnerons à l'unanimité. Et alors ça, je dois dire qu'elles avaient tellement raison. Et à mon livre suivant, elles ont été... Là encore, ça s'est passé de façon très élégante. Elles m'ont fait savoir, vous savez, il y a 2 ans, il y avait Marguerite Yourcenar, alors on n'a pas pu vous rattraper. Alors cette année, on vous le donne. Elles m'ont dit ça vraiment 2 mois à l'avance, de sorte qu'il n'y a pas eu de tous ces magouillages qui sont quelquefois affreux autour des prix, et que j'ai eu tranquillement mon Fémina, donc c'était agréable.
Maintenant, vous n'aurez plus le Goncourt. Vous pouvez écrire toute votre vie, vous faites partie de l'Académie Goncourt, c'est fini.
J'espère contribuer à en donner quelques bons.
Il y a 2 traits, je crois, dans votre caractère, vous allez me dire si je me trompe ou si j'ai raison. Il y a la désinvolture, et on la remarque, et il y a l'insolence, et c'est presque du respect.
Je me demande si la désinvolture et l'insolence, c'est pas un peu la même chose, non?
Pas tout à fait, quand même. On peut être désinvolte et être très respectueux, dans le sens très agenouillé.
Je rectifierai un petit peu portrait. Je dirais qu'il y a l'insolence, ça, sûrement. Mais elle est presque involontaire, vous savez. Généralement, les choses m'échappent comme ça. De temps en temps, il y a une phrase qui sort, je dis tiens, j'ai dit ça. Ou il y a un livre qui paraît, je dis tiens, j'ai fait ce livre. Disons qu'il y a une espèce de petite complicité envers moi-même. Je me laisse faire des bêtises avec une certaine délectation. Bien, ça, c'est pour ce que vous appelez l'insolence. C'est peut-être une sorte de sens très, 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 très subtil de la gaffe, au fond. Hein. Et je pense que de l'autre côté, le vrai trait, c'est que je suis... Disons que l'amitié compte énormément pour moi. Je me suis toujours appuyé sur des amitiés masculines, féminines. Je suis comme du béton pour mes amis, et l'expérience prouve que mes amis ont toujours été comme du béton pour moi. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Je ne peux pas citer de nom, il faudrait en citer 10 pour les 30 années qui viennent de s'écouler, mais je m'aperçois aujourd'hui que certains soirs, si ces gens-là, ou une de ces personnes-là n'avait pas été là, n'avait pas été au téléphone, n'avait pas fait un petit signe, la vie n'aurait pas eu le même goût. Alors au fond, entre l'insolence et l'amitié, je me sentirais plus à l'aise.
Tout à l'heure, nous parlions du portrait de l'indifférent, et c'est vrai qu'on vous accorde de la force, du talent, du cynisme, de l'ambition, et si l'on se trompait sur tout. Parce
oui,
qu'on se trompe souvent.
Hein. C'est une phrase du portrait d'un indifférent, ça. La phrase exacte est « on lui accordait trop de tout ».
On lui accordait trop de tout. On le fait pour beaucoup de gens, d'ailleurs.
Oui, on le fait souvent du côté de l'ambition et on le fait souvent du côté du talent pour les gens. Je n'ai jamais pu savoir si j'étais ou non ambitieux. Je n'en sais rien. Je ne me suis pas... Aujourd'hui, ma tendance serait de dire oui. Là, encore une fois, l'élégance consisterait à dire mais non. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je crois que quand on reçoit des cadeaux, c'est quand même un petit peu qu'on les a voulus. Hein? Il faut essayer de les vouloir sans s'agiter, de les vouloir convenablement. Mais on les a souvent voulus. Donc, même si c'est un trait de caractère pas tellement agréable, disons que la vie étant ce qu'elle est, moi je crois qu'il vaut mieux avoir les choses que pas les avoir. Il vaut mieux avoir des enfants que pas en avoir. Il vaut mieux avoir une maison que pas en avoir. Avoir des chiens que pas en avoir. Avoir des bonheurs que ne pas en avoir. Il y a un certain appétit, c'est vrai.
Alors pour vous, plutôt oui que non?
Plutôt oui que non.
Alors, il y a également les étonnements que vous provoquez, parce que vous aviez jusqu'à présent un territoire d'écriture, le roman, la nostalgie, le hier de notre vie. Et puis, cette fois-ci, vous plongez dans l'océan politique, qui est parfois une mare, et on en revient à cette lettre ouverte à Jacques Chirac. Et là, vous vous êtes vraiment amusé.
À écrire, je me suis amusé énormément. C'est un des livres avec le portrait d'un indifférent que j'ai fait dans la plus grande jubilation. Le portrait d'un indifférent, je dois dire, c'était un petit livre, un peu comme celui-là, pour la taille. Je l'avais fait en un week-end. Et ça, c'était une époque où j'avais quand même une jolie santé. C'était Jean-Claude Fasquelle, l'éditeur, qui, comme je ne lui donnais pas le manuscrit, un jour m'a invité à la campagne, dans sa maison, et il m'a dit « Écoute, je vais te donner une jolie pièce calme, puis au moins tu vas commencer ». Et le lundi matin, quand nous sommes partis, je lui ai donné le manuscrit. Je n'avais pas commencé, j'avais fini. Alors ça, c'était agréable. Même maintenant, je suis vieux, ça va plus lentement. J'ai dû faire ce livre en une vingtaine de jours. Mais je dois le dire en m'amusant énormément.
Oui, parce qu'il y a, comme dans beaucoup d'autres nouveaux livres d'ailleurs, il y a un bonheur d'écriture et on s'amuse. Parce que vous allez au-delà du personnage de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est presque le prétexte. Il y a par exemple ces phrases « En France, à peu près depuis la Révolution, on donne une place exorbitante aux gens de lettres et de plumes. » Vous ne pouvez pas le regretter, vous, François Nourricier. « Napoléon redoutait les opinions de Madame de Staël et Charles X, celles de Chateaubriand. Pétain avait peur d'André Gide. La Quatrième République tremblait sous les sarcasmes de Mauriac et de Gaulle. Non, sur les sarcasmes de Mauriac et de Gaulle, lui, de Gaulle, par somptueuse prudence et goût du théâtre, s'attacha Malraux. » Et moi, je vois une absence, parce que je me demande quel est l'écrivain qui fera peur à Giscard d'Estaing et qui restera pour l'histoire comme celui qui a fait peur au président de la République en prenant les gens au sommet.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait répondre à cela ? On a les ennemis qu'on mérite. Je n'ai pas l'impression que l'homme Giscard, de même d'ailleurs que l'homme Pompidou, ne soit de ces personnages qui attirent la passion, la cautèle, la cruauté, l'hypocrisie des écrivains. Je crois que les écrivains doivent reconnaître dans le maître du moment, ou pour eux l'adversaire du moment, doivent reconnaître un confrère, un autre écrivain. Malraux et Mauriac savaient très bien que de Gaulle, c'était aussi un littérateur. Constant ou Chateaubriand savaient très bien que Napoléon, c'était aussi un littérateur, etc. Et je crois qu'il faut, il y a un rapport de cousinage qui s'établit en France, où on aime tant les écrivains. On aime bien, et même la Troisième République a connu ses Herriot. Herriot, c'était Madame Récamier, on n'y peut rien, on pouvait s'entendre quand même. Là, nous avons affaire à quelqu'un, pour l'instant, qui dit toujours qu'il aime la poésie, qu'il a la nostalgie, il aurait voulu être un romancier. Ça m'a pas l'air très, 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 très vrai. En tout cas, ça n'apparaît pas dans son style, ni dans son style politique. Alors, les écrivains, s'ils sentent que c'est pas un confrère, ça ne les intéresse pas tellement, je crois.
Et puis, il y a également vos interrogations sur l'avenir. Vous écrivez « Je ne sais pas si, arrivé aux affaires, M. Mitterrand et M. Marchais confieraient des postes à Claude Manseron, à Paul Guimard, à Bernard Pingot, à Jean Daniel, à Maurice Clavel, à Hasard d'Estaing, comme vous l'appelez, mais on sait qui c'est, et à René Andrieux. » Alors, vous pensez que ces hommes-là, Manseron, Andrieux, Guimard, Jean Daniel, Maurice Clavel, n'auront pas de poste dans l'Union de la gauche ?
Non,
au moins à la culture.
Je pose la question pour malice, parce que j'aurais tendance à penser qu'au contraire, ils en auront ou ils en auraient, parce que Mitterrand, c'est ça qui m'intéresse bien en lui, il fait partie de la cohorte des littérateurs. Il veut un peu trop en faire partie, mais quand même, il a raison, il n'est pas loin. Et dans la comparaison que je fais entre Chirac et lui dans mon livre, justement, je dis à Chirac, mais essayez de devenir un petit peu écrivain, vous aussi, après tout, ça se travaille, tout ça. Mitterrand, lui, il a réussi. Il s'est fait un style, il s'est fait cette belle écriture un peu fruitée, comme ça, un peu charentaise, dont il est si content, et il a raison d'en être content. Donc, j'aurais tendance à croire... Et je ne sais pas si c'est un jugement très favorable, j'aurais tendance à croire qu'il y aura une petite escouade de littérateurs autour de Mitterrand.
Mais je ne sais pas si vous avez lu, François Nourricier, le dernier livre d'Olivier Todd, La Marelle de Giscard.
Je suis en train de le lire.
Bon, vous avez vu que le président de la République, puisqu'il s'agit d'un livre consacré entièrement au président de la République, oui, a quand même cette tentation de l'écriture et qu'il y viendra lui aussi, peut-être.
Je ne sais pas.
Vous n'y croyez pas, là.
Vous savez, il y a une espèce d'intuition qu'on apprend comme ça dans l'édition. On voit des gens qui viennent une fois ou l'autre vous expliquer qu'ils ont envie, qu'ils sont en train de travailler, etc. Et on les flaire, comme ça. C'est comme des chiens qui se reconnaissent, on les flaire, et quand ils quittent le bureau, on se dit « Oh, celui-là, il n'en sera jamais. » Ou bien « Ah, celui-là, il en sera peut-être. » Je sais pas, moi j'ai du mal. Un jour, j'étais dans le bureau de Giscard, qui n'était pas encore président de la République, et je lui ai dit comme ça d'un air encourageant, « Vous avez pas envie un peu d'écrire un livre ? Moi j'aimerais bien m'en occuper si vous en écriviez un, j'aimerais bien que mon éditeur soit le vôtre. » Et il m'a répondu, « Si j'écris un jour un livre, ce sera un roman d'amour. » Et je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas cru. Mais c'était une réaction d'éditeur.
Enfin, pour ceux qui concernent la politique, François Nourricier, il y a cette lettre ouverte. En fait, vous êtes mêlé de ce qui vous regarde, de ce qui regarde tout Français.
Ben écoutez, j'ai passé 2 ans à être critique dramatique du Figaro et à voir 5 soirs sur 7 des spectacles dont 9 sur 10 étaient politiques. Ça n'étonnait personne. Quand un metteur en scène fait un film politique, on dit « Ah, enfin, les metteurs en scène français s'occupent un peu de sujets sérieux comme les Italiens ou les Américains, c'est bien ». Alors, pourquoi un écrivain ne ferait-il pas un jour 150 pages sur la vie de son pays ? Après tout, ça s'appelle aussi le patriotisme.
Et puis, il y a votre curiosité, parce que vous êtes en même temps critique de télévision, chroniqueur plutôt que critique, et vous avez encore, parce que vous êtes passé du théâtre à la télévision avec les mêmes bonheurs.
Je suis passé du... J'ai abandonné le théâtre parce que j'avais simplement le sentiment que là, alors, ma vie profonde était menacée. Cette espèce de...
L'occupation totale.
À l'occupation totale. Cette espèce de, d'enchaînement à un métier, avec des horaires, avec la voiture pour y aller, la voiture à parquer, et toujours ce soubrechtisme qui nous coulait sur la tête, comme ça, c'était vraiment pas possible. Alors ça je me suis senti là, dangereusement menacé, et je suis parti. Quant à la télévision, c'est seulement... Nous vivons tous un petit peu trop en vase clos. La télévision, c'est quand même une jolie fenêtre ouverte, c'est simplement ça. Au fond,
puis il y a le monde entier, là.
Il y a le monde entier, et puis je pense plutôt à la France. Je m'aperçois que souvent mes sujets de chronique me ramènent à ce qui est dans ce livre,
à ce qui est vous,
à la vie quotidienne de la France, que j'aimerais bien comprendre.
Lorsque vous parlez de la télévision, une fois encore, vous parlez de vous, et je me demande ce qui peut vous faire rêver maintenant.
Les livres à écrire. C'est vraiment la seule question, les livres à écrire.
Merci François Nourricier, je rappelle le titre de votre livre qui paraît comme toutes les lettres ouvertes chez Albin Michel, Lettre ouverte à Jacques Chirac. Bon, bien évidemment vous parlez de Chirac, mais pour la première fois vous parlez vraiment de politique. Et encore, vous, une fois encore, vous parlez de vous-même.
Mais avouez que à tant faire que de parler de soi, c'était pas un mauvais titre.
Merci François Nourricier.